Votre émission sur Bernard Kouchner est immonde. Merci quand même.
Bonjour, je voudrais laisser un message par rapport à l'assassinat d'Andreas en Grèce. Voilà, je voulais dire au revoir à Andreas, lui souhaiter un bon voyage là où il est, et je voulais envoyer tout mon respect aux parents et aux amis et aux frères et sœurs d'Andreas. J'ai vraiment de la peine à imaginer leur douleur. Quel gâchis. Je voudrais aussi remercier tous ces jeunes de Grèce qui affrontent la police. Je voudrais aussi remercier cet énorme élan de solidarité. Je voudrais aussi remercier Angelika Kouronis, qu'on entend trop rarement sur les ondes depuis 2-3 jours, qui est en direct d'Athènes et qui nous trace un tableau, je crois, très honnête de la situation. Elle parle du ras-le-bol des jeunes, elle parle de la décadence de la police, de la décadence du gouvernement. Elle parle de la chasse aux sans-papiers, elle parle de la torture, du manque total de démocratie. Elle parle de la chasse aux sans-papiers. Je crois que je me répète, mais c'est pas grave. Mieux vaut l'entendre plusieurs fois qu'une seule fois. Elle parle aussi de la compréhension du peuple grec par rapport à ce qui se passe. Ça fait du bien.
Bonjour Daniel, bonjour tout le monde. Qui l'eût cru que la Grèce allait encore une fois nous montrer l'exemple? Après tout, ce qui se passe en Grèce, c'est ce qui est prêt à se passer de partout. Faut suivre l'exemple. C'est très bien ce qu'ils font là, à condition que ça dure. Allez, c'est Marie à Lyon. Ciao.
La Grèce a donné au monde le mot « démocratie ». Elle est le premier pays d'Europe à s'insurger contre la politique antidémocratique du néolibéralisme. Nous, les Français, nous devrions essayer de comprendre ce que ne nous disent pas les informations intoxicantes de la propagande des médias contrôlés et censurés qui accusent le mouvement populaire grec d'être le fait de quelques agitateurs anarchistes et un peu énervés à cause de l'assassinat d'un jeune homme par la police. Le mouvement populaire grec est beaucoup plus que ça. C'est un appel à tous les peuples d'Europe, à la solidarité et à la lutte, pour avoir le courage de se dresser contre les mesures totalitaires et antidémocratiques des gouvernements néolibéraux, générateurs de crises économiques, de violences sociales, d'injustices sociales, de brutalité policière. Donc on aimerait bien entendre un petit peu ce son de cloche des fois dans les médias, ça nous ferait peut-être un peu plus d'effet que ce qu'on entend en ce moment qui tente à complètement annuler la vérité du mouvement grec. Allez, bon courage et bonne continuation. Au revoir.
Nous, peuple d'en bas, nous ne condamnerons pas l'accusé Bernard Kouchner totalement coupable et responsable des crimes pour lesquels il comparaît aujourd'hui devant nous. Nous nous accuserons plutôt d'être les receleurs actifs de ces crimes et d'y contribuer fortement par notre soutien financier. Nous, peuple d'en bas, déclarons ce procès caduc et prononçons sa révision. Monsieur le greffe de là-bas, si j'y suis, veuillez en prendre note. Merci.
C'était pour la condamnation de Bernard Kouchner. Je propose de l'obliger à se réinscrire au PS. Au revoir.
Monsieur Bernard Kouchner, je vous accuse d'avoir péché par complaisance et vous condamne à vous enduire le corps de miel pour attirer les mouches qui nous emmerdent, et cela jusqu'à totale rupture des scopes.
Oui, salut Daniel et toute l'équipe. Étant donné que le procès du condamné d'avance a été pour moi un bain de jouvence à cause des rires qu'il a provoqués, je demande la relaxe pure et simple pour le dit condamné. C'est René de Montpellier.
Ce qu'on adore avec René, c'est quand elle dit Montpellier. C'est vraiment l'accent du coin. Merci René, merci aux autres de ces messages et de ces condamnations extrêmement sévères. Mais il faut continuer, hein. Il faut vraiment que le peuple s'exprime, que ce soit un vrai tribunal populaire. Donc on attend vos sentence et condamnation. Alors ça bouge en Grèce et c'est bien intéressant de suivre ce qui se passe dans ce pays qui est, ne l'oublions jamais, notre matrice culturelle, intellectuelle et en grande partie linguistique aussi. Aujourd'hui, on va s'intéresser, comme tout le monde, aux pauvres. Oui, c'est la mode, vous savez, quand les grands froids arrivent, eh bien, le journaliste met sa doudoune épaisse et ses moon boots et va s'intéresser, va photographier les pauvres, leur poser des questions et ramener des reportages pleins de compassion et de soupirs consternés et consternants. Alors, ben, on va pas échapper à, c'est le marronnier, hein. Il y a un temps pour la dinde, il y a un temps pour les œufs en chocolat, et puis il y a un temps pour le pauvre, et dans la basse, j'y suis. C'est aujourd'hui. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la basse, j'y suis au 01 56 40 37 37, et auparavant, une petite précision. Ce soir, à Massy, non loin de Palaiseau, au Cinéma-ci, A-A-A, projection de Chomsky et compagnie, suivi d'un débat en présence de votre serviteur. Message.
C'est beau, hein, un président français qui s'indigne contre un dictateur africain. Enfin, surtout quand ce dictateur-là ne fait pas partie du réseau de la France-Afrique. Eh ben, je vous souhaite une bonne journée. Allez, salut. C'était Fabrice de la Courneuve.
Bonjour Daniel et les auditeurs, c'est Laurent de Saint-Vallier. Là-bas, si j'y suis, dans le bassin minier, Monceau-le-Creusot. Ce soir, un rendez-vous citoyen pour parler de la délocalisation des hôpitaux, de la fermeture de la maternité. Ce soir donc, mardi 20h au trait d'union de Monceau-les-Mines, les élus invités viendront-ils expliquer aux citoyens ce qu'il se passe et que deviendront leurs deux hôpitaux? Merci, à ce soir pour un débat citoyen.
Le tribunal de l'indignation délibère depuis 24 heures. La sentence est 5760. 5760 enfants morts de faim dans le monde en 24 heures. 5760, 5764, 5768, 5772. Quoi de neuf, docteur ? Jacob, Île-de-France.
Amis des betteraves du Gâtinais français, bonjour. Ici le repère de Toussaint, village de 384 habitants, à côté de Milly-la-Forêt. Les AMG sont invités à rencontrer ce mercredi le journaliste écrivain Claude-Marie Vadreau pour discuter de son livre « La grande surveillance ». Le thème de cette soirée sera donc la découverte de tous les moyens actuels qui permettent de suivre à la trace n'importe quel citoyen, téléphone portable, carte à puce, péage automatique et les GPS qui sont si pratiques quand on s'éloigne du périphérique. De la science-fiction au quotidien, en somme. Pour lire le bouquin avant la soirée, les AMG de la région peuvent aller à la librairie de la Halle, à Milly-la-Forêt, qui est notre partenaire pour cette soirée. Ce repère littéraire aura lieu ce mercredi 10 décembre à 20h30 à la tête des trains, café du village de Toussaint, près de Milly-la-Forêt. Bienvenue à tous, venez nombreux, l'endroit est sympa. De la part de Pierrot, Polo et Julien, ciao.
Moi je pars du principe, quand on commence à donner à manger aux pigeons, on se ramasse toute la horde. Donc je limite ça, je limite.
Vous dites quand on donne à manger aux pigeons, on se ramasse toute la horde.
Vous commencez à donner à manger un pigeon. Au bout de 10 minutes, vous en avez 10, 20, 30. Au bout d'une semaine, vous avez tout un troupeau de pigeons qui est là dans le quartier, enfin vous comprenez quoi. Donc là-dessus, je préfère limiter aussi.
Faut que le quartier soit propre quoi.
Puis si demain ils gagnent au loto, ils seront peut-être bien contents de venir habiter dans le quartier. Comme à Euro Disney, voilà.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis avec Pascal Pascariello, les glaireux et les onctueux.
Flight number 2, arriving from New York.
Donc je suis monsieur Avey, je travaille pour la société Côté Montorgueil. Nous sommes tout simplement une agence de proximité spécialisée sur le quartier piéton Montorgueil, comme notre nom l'indique. Une agence immobilière, on est spécialisé uniquement dans la vente de biens immobiliers sur le quartier piéton Montorgueil. À l'heure actuelle, il y a un engouement qui est assez important pour le quartier Montorgueil, comme la Reine d'Angleterre est venue, c'est un endroit très showbiz. Maintenant, il fait bon de se faire d'être vu dans la rue Montorgueil, dans le quartier Montorgueil. Alors, vous êtes tout simplement dans le centre de Paris, vous êtes entre le Sentier, entre Rivoli, les Arts et Métiers et la Bourse. Donc ça vous permet de vous situer, on est vraiment au cœur de Paris. C'est un quartier piéton, donc il n'y a pas de voiture. Vous voyez, tout le monde marche sur la route comme dans... comme à Euro Disney, voilà. Ici, je vous parlais tout à l'heure showbiz parce que vous avez pas mal de personnes comme Jennifer, comme Laurent Voulzy. C'est un endroit qui est maintenant très très médiatisé. À l'heure actuelle, le quartier Montorgueil est vraiment ce qu'on peut appeler un village. Tout le monde se connaît, il y a une notion de proximité. Donc, ce que les gens cherchent actuellement, c'est ce côté. Regardez, vous allez voir qu'il y a vraiment une atmosphère Montorgueil.
Vous la sentez, l'atmosphère Montorgueil, là, c'est bien, hein, c'est joli, les petits pavés, les petits commerçants, les petites boutiques, c'est joli, c'est pimpant, c'est pomponné, c'est magnifique, c'est Paris, quoi, c'est, on vient de vous le dire, hein, c'est un endroit, formidable, mais là, c'est curieux pour ceux qui ont un tout petit peu de mémoire et un petit peu de bouteille aussi, où sont passés les pauvres? Il y avait, je parle pas des très très pauvres, hein, parler des très très pauvres, mais du peuple, du populo, il y en a plus. Ils ont disparu de ces rues, de cette rue Montorgueil et d'autres rues de Paris et de Paris d'ailleurs. C'est curieux quand même. Et puis alors les clodos, les sans-abri, les SDF, il y en a plus. C'est quand même une disparition. C'est quand même ça vaut des questions, ça vaut une enquête qu'a faite. Pascal Pascariello, en fait, aujourd'hui, on va parler des pauvres, bien sûr, parce que, c'est vrai, le pauvre est un souci, c'est une nuisance parmi d'autres, il faut le surveiller, il faut le repousser quand il incommode la vue ou l'odorat, quand il compromet l'atmosphère d'une rue commerçante, quand il fait ses besoins à votre porte, mais il faut surmonter votre dégoût, parce que le pauvre est indispensable et il est saisonnier, on l'a dit. Sans le pauvre, comment sentir le passage des saisons? C'est comme le Beaujolais ou les collections d'hiver. Il y a la mort du pauvre sous son tas de cartons à cause de la froidure et de l'indifférence de la société sans cœur qui est très méchante. Cette scénette est un rituel saisonnier, comme les santons pour la crèche. Ou une bonne purge avant la dinde. Ça, c'est bien la purge avant la dinde. Et alors, chacun fait son indigné, l'œil humide, le consensus vertueux. Et alors, on prend des mesures. Hein. Des mesures de quoi? Des mesures du cercueil. D'ailleurs, je m'adresse à toi, ami pauvre. Toi qui, une bonne âme discrète, vient d'offrir un petit transistor, rue Montorgueil, que tu écoutes collé à ton oreille. Et au nom de tous, je te dis merci pour le rôle indispensable que tu tiens depuis toujours. Sans toi, la vie n'aurait plus de sel et plus de sens. Supprimer la pauvreté, c'est comme supprimer la mort. Et quel goût aurait mon caviar si toi, le pauvre, tu pouvais en bouffer.
Et comme entrée, je te propose une rue qui grouille et un mendiant qui pose, de la pluie qui mouille et un chapeau par terre, à côté d'un restaurant où ça sent la mer. Et je t'emmène en balade, là où sous la lune on voit le jour, loin des feux rouges où la main demande, mais quel est le menu du jour? Mais quel est, mais quel est, mais quel est, mais quel est le menu du jour? Laï, 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 mais quel est, mais quel est, mais quel est le menu du jour?
Et pourquoi on tend la main
main tendue pour le menu du jour. Main venue de loin, main qui se souvient, main qui tremble pour un litre de vin. Mais la main reste en l'air et le pied lui reste dans sa chaussure. Ça n'est pas une question de température. Ici on ne gaspille pas que de la nourriture. Et je t'emmène en balade, là où sous la lune on voit le jour. Loin des feux rouges où la main demande, demande, mais quel est le menu du jour? Mais quel est, mais quel est, mais quel est, mais quel est le menu du jour? Laï, 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 mais quel est, mais quel est, mais quel est le menu du jour? Qu'as-tu choisi pour le dessert? Une crème chantilly ou un morceau de pierre? Un bébé rose, une banane à la bière? Deux boulets de citron au mar? Une oreille sur ton ventre, j'entends la mer. Depuis combien d'années, d'années-lumière? Des belles vitrines, la banque alimentaire, des bandes à l'école à la
super populaire.
Magalais, 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 le menu du jour. Magalais, 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 le menu du jour.
Comme vous voyez marqué devant nous sur le sol, c'est 1991. Cette date en fait signifie tout simplement la date de création du quartier piéton. À partir de ce moment-là, en fait, on a vu autre chose que le sentier, parce qu'ici, il faut voir que ce n'était que le sentier. C'était prostitution, drogue, textile. Donc depuis que c'est devenu piéton, c'est devenu un endroit un petit peu protégé. Hein. Donc à partir du moment où il y fait bon vivre, les gens qui ont de l'argent viennent y résider. Donc à partir de ce moment-là, l'argent s'injecte tout naturellement, par les charges, par le prix des appartements qui augmente. On est sur une base de 7000 euros du mètre carré, ce qui n'est pas rien non plus. Et je vous donne bien évidemment une moyenne.
À la location,
vous fonctionnez sur une fourchette de 30 euros du mètre carré. 30 mètres carrés, voilà, ça vous fait 900 euros. Je voulais vous emmener dans un hôtel particulier du XVIIe siècle qui est absolument magnifique. C'est un hôtel particulier, vous voulez faire un petit tour? Je vous y amène parce que c'est un hôtel particulier que j'affectionne particulièrement. Voilà. Voilà ce que cache le quartier Montorgueil derrière de petites portes. Et c'est pas le seul. Mais bon, vous voulez un exemple, c'est assez représentatif du quartier. C'est un hôtel particulier du début du XVIIe siècle en pierre de taille. Bien évidemment, s'il est classé par les bâtiments de France, c'est qu'il y a de l'historique, vous avez la cage d'escalier qui est également classée. C'est déjà vendu, tout est vendu dans le quartier, vous n'avez rien qui est vacant. On a un appartement à vendre dans cet immeuble, mais on a déjà trouvé l'acquéreur. Donc un appartement spécial, c'était 200 mètres carrés, on dépassait le million d'euros.
Et quand on arrive rue Montorgueil, il n'y a pas de pauvres, il n'y a pas de personnes dans la rue.
C'est un quartier où il y a de l'argent, tout simplement. C'est dommage, mais bon. Et plus les riches sont riches, plus les pauvres sont pauvres. Hein. Je vois pas beaucoup de pauvres, parce qu'on sait qu'ici vous allez trouver peut-être plus d'argent, plus de les Halles, c'est le rassemblement de 4 lignes de RER et de 4 ou 5 lignes de métro. On trouve une certaine faune. Voilà, donc si vous allez faire un tour du côté des Halles, on va parler de là on peut parler de côté populaire.
Mais il y a pas de SDF qui stationne rue Montorgueil.
Si, on a même nos SDF que tout le monde connaît et qui sont connus dans le quartier, qui sont des figures emblématiques.
Ah oui.
Ce sont des figures emblématiques. Vous aviez Jean-Marie, qui nous a quitté il y a peu, qui était une figure emblématique du quartier. Mais c'est cette notion de pauvre que je vais relever, parce que c'est pas forcément c'est des farfelus, c'est des gens qu'on va peut-être prendre pour des pauvres mais qui le sont pas. Donc c'est peut-être pas quelque chose qu'il faut caractériser, c'est pas un trait, c'est pas quelque chose qui va caractériser ces personnes là mais le côté de SDF enfin bon, ça c'est un point, il y a pas une équipe de vigile à l'entrée qui ne fait pas entrer les mendiants dans la rue. C'est un quartier où peut-être tout le monde a envie de passer, hein, les riches comme les pauvres, comme tout le monde. Donc, puis si demain ils gagnent au loto, ils seront peut-être bien contents de venir habiter dans le quartier.
Qu'est-ce que tu dis ?
Ça fait 63 ans que j'habite le quartier. Et puis j'ai vécu toutes les transformations, le départ du marché. La rue Montorgueil, qui il y a 30 ans était la rue la commerçante la moins chère de Paris, c'est devenu quasiment la plus chère.
D'autant plus que vous avez bien connu les Halles.
Ah ben, ça,
et le marché.
Complètement. Mon père travaillait au poisson. Il était vendeur de sous les pavillons. J'étais vraiment plongé dedans, quoi. Au fur et à mesure, la pression immobilière a pris une ampleur qu'on connaît bien maintenant. Hein. Donc tous les anciens habitants, bon, sont soit morts, soit sont partis parce que bon, ils pouvaient plus se loger sur place, quoi. Ce qui fait que le quartier qui était un quartier vraiment très très populaire, mais dans le sens noble du terme, hein, avec une mixité sociale qui était très nette, et où tout le monde se côtoyait et fraternisait sans problème, hein, au bistrot d'en bas. Bon, ben maintenant, ça s'est uniformisé, quoi. C'est des classes moyennes, plutôt cadres supérieures, d'ailleurs, plus que la moyenne, qui habitent là, en grande partie. On en est là maintenant, quoi. Mais enfin, il aura fallu 40 ans, quand même.
Eh ouais, comme dit Jean-Jacques, on en est à maintenant. Voilà, la rue Montorgueil, ancienne rue populaire, est devenue l'archétype, la caricature du quartier bobo. Et moi, dans mon enfance, il m'arrivait de me balader rue Montorgueil avec ma maman. Et ma maman, quand on voyait un clochard, on disait clochard, on disait pas SDF, elle dit, faut que tu fasses attention parce que c'est peut-être Jésus-Christ. Je dis, comment ça? Ben oui, c'est peut-être Jésus-Christ, parce que des fois, Jésus, il s'habille en pauvre. Et c'est pour ça qu'il faut donner aux pauvres, parce que des fois, ça peut être Jésus-Christ. Voilà. Je dis, ben alors, mais si on donne pas à Jésus-Christ, qu'est-ce qui peut arriver? Ma mère disait, tu peux avoir plein d'emmerdements si tu donnes pas, si jamais c'était Jésus-Christ. Et ma mère, elle s'y connaissait en emmerdement. Elle était tombée dedans étant petite, et puis ça ne l'a jamais lâchée à peu près de toute sa vie. Et elle disait une chose, je ne sais pas si c'est son histoire de Jésus-Christ qui lui avait permis de comprendre une chose très très importante. Elle disait, eux, ils veulent supprimer les pauvres, mais moi, ce que je veux, c'est supprimer la pauvreté. Ma mère avait lu Victor Hugo, et ça, c'est Victor Hugo. Mais je pense qu'elle n'avait pas besoin de Victor Hugo pour avoir trouvé ça. Aujourd'hui, on régresse, c'est le grand bond en arrière qu'on est tous en train d'accomplir joyeusement. Donc on est revenu au temps de la charité, on est revenu au temps de la bienfaisance, on est revenu au temps des bonnes œuvres, et dans une rue très bobo. Le bobo, c'est un mot un petit peu d'aujourd'hui pour dire bourgeois, voilà, bourgeois, c'est une rue bourgeoise. Eh bien, on est revenu aux bonnes œuvres, et Jean-Jacques a bien raison de regretter ça. On peut regretter ce temps, effectivement, des Halles et l'un des hauts lieux de la rue Montorgueil, dans lequel j'allais quand j'étais gamin avec ma maman, parfois, quelquefois, le dimanche, acheter un puits d'amour, c'est le pâtissier Storer.
Merci. C'est gentil, merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Au revoir. C'est une pâtisserie traiteur, en fait. On fait plein de spécialités pour Noël, on fait des menus tradition, vraiment la dinde farcie au marron, crème.
Et alors si je veux avoir mon petit menu moi pour Noël, pour
le menu tradition, il est à 49 €, le menu divin il est à 59 €.
Ça veut tout dire, divin, c'est quoi,
c'est mieux, c'est encore mieux que enfin le premier il est bien, mais le deuxième il est plus garni. Vous avez la verrine, c'est une verrine avec un pot-au-feu de foie gras, de canard et légumes d'hiver. Hein, ça c'est extra.
Verrine, c'est quoi une verrine?
Une verrine, c'est un verre transparent, en fait. C'est un verre transparent, on voit à l'intérieur les couches de garniture. Ça c'est vraiment... De toute façon, chez Storer, hein, on peut trouver que de l'art. Hein. Parce qu'un vrai pâtissier, il a fait l'école du Beaux-Arts. Hein. C'est pas un pâtissier de chez Ginette. Hein. Les gens, ils viennent ici, ça, ils savent qu'ils vont payer tant, mais le luxe, c'est sûr que ça se paye dans une boutique. Hein. Pour 200 euros, je pense qu'ils ont un très bon, même pour 150 euros, un bon menu avec ce qu'il faut, avec des fruits secs à côté, avec des choses. Hein.
Est-ce que vous avez beaucoup de pertes ou pas?
Oui, bien sûr qu'on a de la perte, mais pas tout le temps, hein, c'est très rare. Et puis, si on a de la perte, on a l'église Saint-Eustache, tout l'hiver, on leur fournit, ils viennent nous chercher le soir, et on leur donne, voilà.
Donc, individuellement, c'est pas la peine que j'appelle mes amis pour leur dire
non,
venez.
On
ne
le fera jamais.
Pourquoi?
Parce que après, les gens viendront que pour ça, et c'est pas, on préfère donner à l'église, s'ils en veulent, ils ont qu'à aller à l'église Saint-Eustache.
Vous avez un petit sourire parce que vous imaginez une queue de...
Oui, je suis en train d'imaginer ça. Hein.
Ça ferait quoi pour
parce
vous?
Si on a un clochard qui arrive, qui, c'est vrai qu'il meurt de faim, on va lui donner un sandwich. On n'est pas... On est humain, donc non. Des fois, on leur donne, ils veulent pas, ils veulent de l'argent, des choses comme ça. Donc non, il y a de l'abus, je trouve. Hein. Enfin, non, on ne fait pas. On ne fait pas tout ça, non. On ne le fera pas d'ailleurs. Là, dans la boutique, on a une image de la maison. Non, non.
Admettons cet horaire quand même qui est vraiment réputé. Si ça passe comme quoi ils donnent des trucs pour la soupe Saint-Eustache, vous rendez compte qu'il y a des clients qui peuvent mal le prendre, on ne sait jamais. On ne sait jamais, moi je me dis c'est ça. Hein. Eh bien oui.
Et pourquoi ils le prendraient mal au contraire?
Ben, parce que c'est associer cette image de marque à une classe sociale dévalorisante, franchement. Comment vous le voyez-vous? Ils savent que c'est assuré par ailleurs, bien organisé, tranquille.
Mais.
Question d'image, d'association, c'est mon premier hiver.
Bon, William, alors expliquez-moi. Là, vous avez mangé quoi?
La soupe, et puis après, les légumes avec le poisson. Et on attend pour le café après.
Et donc tout se passe dehors. Je dis ça d'une voix un peu tremblante parce qu'il fait froid quand même.
Ah oui. Il y a des lieux où on peut manger à l'intérieur. Là ici, je sais pas, ils n'ont pas la place pour... Parce que dans 5e, il y a une... On appelle ça la soupe populaire. Et ils donnent des tickets. Ils appellent par numéro. C'est-à-dire de midi moins le quart jusqu'à 2h. Et là, tu as le droit de manger à l'intérieur assis. Bon, t'es au chaud, tu as une soupe, un plat. Et après, tu as l'église Notre-Dame. De la Trinité, là-bas, là, c'est pareil, t'as une soupe, un plat, et puis un café, puis des gâteaux et tout. Et t'as le droit de manger à l'intérieur.
Et pourtant, parce que là, au plus, ils ont une église.
Ah bah ici, Saint-Eustache, c'est une vieille église. Hein.
Elle est grande, hein?
Ah oui, elle est grande. Ils pourraient faire à l'intérieur, mais je sais pas, ils peuvent pas. À moins que...
Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de temps en temps, William, le regard qu'on porte sur vous?
Bah moi, je critique pas les gens, mais il y a des gens, bon, des fois, ils me disent, oh, mais chien, mais... Bah, écoutez, hein, quand vous aurez vécu ce que j'ai vécu, moi, je suis né pendant la guerre. La dernière guerre, je suis né en 1940, tu vois. Vous voyez, c'était en plein mois de décembre 40, et mes parents travaillaient.
Ils faisaient quoi?
Mon père était infirmier brancardier et ma mère travaillait dans les hôpitaux de Paris en cuisine. On était plusieurs dans la famille. Hein. J'ai eu plusieurs frères. Tous les frères ont été militaires et tout. Moi, je suis sorti de l'armée, j'avais 26, 27 ans quand je suis sorti de l'armée. Tout de suite après l'armée, j'ai trouvé du travail au HAL. Il y a un gars qui me dit, tiens, il me dit, il y a les bouchers qui cherchent quelqu'un, du personnel. Moi, je dis, bah, attends, je vais y aller, moi. Ça m'intéresse. Et puis, bon, bah, j'ai travaillé pendant des années là au HAL. Quand je faisais les HAL, j'allais voir mes parents, d'accord, mais je couchais à l'hôtel.
Où? Il était où?
Ici, dans le quartier. Vers Montorgueil, il y avait un petit hôtel que le patron payait, payait tous les mois aux ouvriers, au personnel. Et on commençait le soir à partir de 9h. Parce qu'il y avait la découpe, il y avait tout ça à faire. Faire les transportations pour les clients.
Et la rue Montorgueil, elle était comment à votre époque?
C'était animé. Hein. C'était animé toute la nuit. La rue Montorgueil, c'était animé toute la nuit. Hein. Et après, quand j'ai quitté les Halles, j'ai fait la cuisine.
Vous avez fait la cuisine?
Oui, au café de la paix. Mais là, j'étais pas apprenti, hein, j'étais cuisinier. Puis, et après, quand les nouveaux patrons sont arrivés, ils ont licencié les anciens. Après, j'ai perdu tout mon logement et tout. Quoi.
C'était en quelle année?
C'était en 78-80. J'ai couché sous les ponts de Paris, alors. Faut se débrouiller.
C'est la débrouille.
La débrouille.
Ce soir, par exemple, vous savez où vous habitez?
Je vais voir un coin dans Paris. Parce que j'ai des amis qui ont des chambres où je connais, que je peux passer des fois d'une semaine ou 15 jours... dans une chambre au chaud.
William, vous avez quel âge?
66 bientôt, à la fin de l'année là. Bon, je suis à la retraite maintenant, bon, je me débrouille pour acheter ce que je veux, puis...
Et vous avez combien de retraites?
J'ai assez pour vivre assez, hein, pour l'instant.
Bon appétit. Elle est bien chaude. Bon appétit, monsieur. Bonsoir, monsieur. Et donc là, on est sur le parvis de l'église Saint-Eustache, hein. C'est pas loin de la rue Montorgueil, de la rue...
Oui, exact. Des quartiers piétons.
Vous pouvez m'expliquer ce que vous faites?
Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ce soir, on a des invités.
Des invités, c'est qui?
Ce sont ces personnes qui viennent faire la queue ici dehors pour manger. Ce qu'on va leur proposer. Et donc, pour les accueillir, on installe ces barrières de manière à ce qu'ils puissent faire la queue tranquillement, puisqu'ils seront sans doute assez nombreux. On va canaliser la file d'attente. Et puis, à 19h30 précise, on va ouvrir les portes, les grilles, puisqu'en fait, nous, on prépare le repas derrière les grilles.
À l'intérieur donc de l'église.
Et à 19h30, donc on ouvre les grilles et on sert le repas que nous avons préparé, donc de la soupe, un repas chaud, poisson et riz ce soir. Une équipe fait la tournée des boulangeries, pâtisseries pour récupérer les invendus, qu'on va distribuer aussi avec un café chaud.
Et c'est les boulangeries, pâtisseries de d'où ?
Du coin, voilà, donc du quartier Montorgueil et puis de la rue Saint-Honoré, juste à côté d'ici.
Bonsoir, je m'appelle Max.
Bon voilà, on bouffe là, c'est tout.
Non, on fait des poubelles aussi.
Le soir, à 6h, sur ces poubelles, il y a des produits qui sont périmés le lendemain. Mais c'est toujours bon, on peut le manger le soir. Nous, on aime bien faire les poubelles, on trouve de l'or des fois.
Et pourquoi vous pensez qu'à Montorgueil, vous pouvez pas les faire chez les commerçants?
Les commerçants, ils donnent le plus mauvais, vous ne comprenez pas. Ils veulent pas nous voir, ils nous aiment pas. Nous, on n'en a rien à foutre, on les aime pas non plus.
De gens qui passent avant, on n'a pas le droit de tout récupérer parce que bon, il n'y a plus rien tout ça, bon, on est obligé de venir ici pour certaines personnes.
Vous appelez comment?
Emilio.
Emilio. Quel effet ça fait?
Quel effet ça me fait? Ça me fait un effet de... C'est néfaste, quoi. Parce qu'ils en ont marre de nous voir errer dans les rues, et voilà. Ça peut abîmer des gens.
Et pourquoi vous n'allez pas dans la rue Montorgueil?
C'est un jeu de mots.
C'est un jeu de mots?
Oui.
Pourquoi vous dites c'est un jeu de mots?
Non, moi, je connais.
Qu'est-ce qu'elle a, la rue Montorgueil?
Pardon?
La rue Montorgueil.
Qu'est-ce qu'elle a, la rue
Montorgueil? Les bobos, les bobos.
C'est la rue la plus formidable du monde.
Vous avez une belle intuition.
Ben c'est des bobos.
Ouais, c'est des beaux. Des beaux.
Et moi, j'ai
des
vu.
Des bobos.
Vous croyez qu'on a le droit de dormir dans la rue là-bas ou...
Hein ? Mais moi, je vous conseille pas, ça caille hein, la nuit. Hein. Mais dans la rue Montorgueil, il y a plus de flics que de passants. Vous avez pas compris, les civils, ils sont tous là. C'est obligé qu'il y ait plus de flics que de personnes.
Pourquoi ?
Parce que les gens, ils ont trop de pognon, ils ont peur, ils sont.
Ils
riches.
Ont pas envie de voir.
C'est qu'ils ont pas envie de.
De connaître les pauvres. Ah, c'est tout.
Ah, je ne veux
pas les voir.
Il y a un rejet des personnes SDF, en fin de compte.
Ils ont pas envie de voir la réalité en face, quoi.
Ouais.
Bah, les gens me regardent différemment parce que je suis à côté, peut-être par rapport à eux, à côté de la plaque. Mais en fait...
La plaque, c'est lui qui la tient.
Ils connaissent pas ma vie, quoi. Donc ils peuvent me juger et puis dire, tu vois, il dort par terre, machin, ceci, cela. C'est une merde, c'est une merde. Alors qu'ils connaissent pas ma vie.
Vous êtes bénévole.
Voilà, donc moi je fais partie des bénévoles. On est une trentaine par soir. Il y a une équipe pour chaque soir de la semaine.
Et expliquez-moi, vos invités dînent dehors.
Voilà, nos invités, malgré le froid, vont manger ici sur le parvis. Puis ils sont comme nous dehors.
Et pourquoi le mot invité plutôt que sans domicile ou sans abri ?
Ben, parce que c'est exactement le terme qui les caractérise pour nous, c'est-à-dire que ce sont des gens que nous attendons, qui sont nos invités. Certains sont SDF, mais pas tous. À la limite, nous n'avons pas à connaître l'histoire de chacun. C'est-à-dire quiconque vient ici peut trouver à manger, quelle que soit son histoire et sa situation. Et il me semble que on peut être utile ici. Les contacts sont parfois rudes parce que effectivement, on est dans le monde des gens de la rue, que parfois c'est très... Certains de nos invités ne nous donnent pas toute la reconnaissance qu'on attend. Donc ils sont vis-à-vis de nous, parfois assez méchants.
Et par contre, entre bénévoles, j'ai vu que c'était une grande famille.
Et c'est ça qui est sympathique aussi. Alors certains d'entre nous se connaissent, j'allais dire, en dehors de la soupe Saint-Eustache, en dehors de l'association. Pour d'autres, c'est le seul contact qu'on a le soir, pendant 3h30, on travaille ensemble.
Moi d'habitude, mes invités, je les reçois à table, à la même table que moi.
Eh bien nous, nous les recevons chez eux, j'allais dire, c'est-à-dire dehors. Moi, personnellement, j'attache de l'importance à vivre pendant quelques heures la même situation que la plupart d'entre eux, c'est-à-dire vivre dans le froid, c'est-à-dire ce qu'ils vivent en permanence. Et je trouve que on a à cœur de vivre dans les mêmes conditions une toute petite partie de la journée.
Mais peut-être que eux, ils aimeraient inverser, vivre dans vos conditions une toute petite partie de la journée.
Oui, mais c'est pas le but de l'association.
Il y a des jeunes ici qui sont des bénévoles, qui ont une bonne conscience. Il fait deux heures de bénévolat par semaine pour les pauvres et tout. Les grands-parents qui sont plus amenés à aller à l'église tous les dimanches que leurs parents ou leurs petits-enfants. La photo, Saint-Eustache, le petit-fils qui est là que le sel, le poivre, qui sert la soupe. Ça fait un peu icône, oui, c'est une icône. Peut-être que les gens se posent des questions aussi, parce que ça peut leur arriver un jour, hein, ça peut arriver. Hein. Comme il y a eu un sondage où 77% des gens se posent des questions si un jour ils pourraient se retrouver dans la rue. Hein, c'est quand même, j'ai vu ça où dans l'IB, je crois. Non ?
Vous avez été où ?
Dans le quartier. Je sais pas où.
Par rue Montorgueil ?
Juste à côté. Non, j'ai vu par rue Montorgueil, j'ai vu juste à côté. Mais ils se voient la face, hein. C'est pas,
Ils se voilent la face ?
Non, j'estime que le potentiel des gens qui habitent le quartier, le Montorgueil, de bonne situation et tout, ce qu'on appelle les bobos. Voilà. En l'occurrence, la jeunesse caviar de la génération Mitterrand. Quoi. Ils ont un voile carrément par rapport à la misère. Quoi. Et je m'en suis aperçu depuis des années, quand tous les mois de novembre, dans les grandes Monoprix, Super U, Franprix, ils donnent rien. Que dalle. C'est complètement différent, quoi.
Elle est gentille, cette petite Pascale, hein. Elle est mignonne, elle a des jolies dents, et les gars, ils ont bien vu qu'elle avait des jolies dents, mais elle comprend rien du tout. Elle comprend pas du tout que l'important, le non-dit, alors bien sûr, et c'est pas facile, mais quand on est avec un micro, d'enregistrer du non-dit. Mais le non-dit, il est le suivant, ne pas remettre en cause l'ordre existant. Voilà, il y a un ordre social, qui est que il y a les riches d'un côté et les pauvres de l'autre. Il y a d'un côté les onctueux, et puis d'un autre côté les cléreux. Et qu'est-ce qu'il faut ? Il faut les tenir à distance, ces cléreux. Il faudrait pas qu'ils finissent par se révolter. On a eu des révoltes de gueux. Et oui, l'histoire est pleine de révoltes de gueux. Il faudrait surtout pas. Ce sont des populations dangereuses. Donc, il faut les mettre à distance en leur faisant la charité. C'est formidable, la charité. Vous avez tout. Et en plus, vous avez une image de quelqu'un de bon, avec de la bonne conscience, qui peut bouffer sa dinde au marron avec, c'est encore plus agréable, non? Voilà. C'est un ordre très ancien. Il faut surtout le préserver et préserver l'image. La rue Montorgueil, c'est une image. Les commerçants de la rue Montorgueil vendent des images et on vient là acheter des images et il ne faut pas glavioter sur une aussi belle image.
On doit partir à quelle heure faire la collecte?
C'est-à-dire que, en principe, on a rendez-vous dans une boulangerie tout en haut de la rue Montorgueil à 19h.
Alors, vous, c'est Jacqueline?
Moi, c'est Jacqueline.
Et vous?
Moi, c'est Marie.
Marie et Jacqueline. Alors Jacqueline, expliquez-moi ce qu'on va faire exactement là.
Ben, tous les pains qui sont pas vendus, on les récupère.
Aux boulangeries de Montorgueil.
Voilà, de Montorgueil. On fait tout ça, il y en a qui vont à Saint-Honoré, nous on va à Montorgueil. On fait combien de boulangeries? Tu fais combien de boulangeries à peu près?
Il y en a 13, donc, en
13 en tout et 8 sur le quartier Montorgueil.
Je suis avec vous.
Et c'est donc, Dominique, vous venez avec nous.
Voilà. On sert la soupe, on va aux boulangeries, ou on fait la vaisselle, ou voilà.
C'est extra.
Ouais, c'est bien.
Un nouveau qui est arrivé. Ça fait combien de temps, vous?
Nous, on attaque notre 6e année.
Oui.
Avec Marie, ensemble.
Nous sommes arrivés ensemble.
Qu'est-ce qui vous plaît bien, justement?
De retrouver, de partager un petit peu le temps avec les autres.
On a des conversations très intéressantes avec eux. Hein. Il y a des gens très cultivés. C'est incroyable, et qui basculent très très vite.
Et ça me fait du bien, moi, le faire, d'aider les gens. On ne pense pas seulement qu'à soi, avec ses petits problèmes chez soi.
Et moi, ce qui m'a vraiment touchée ici, c'est le respect qu'on nous a appris à avoir avec les gens de la rue. Ça, c'est formidable. On dit monsieur, madame, c'est formidable, ça.
Ben, je ne sais pas si on appelle ça la charité, mais quand même, avec dans le monde qu'on vit actuellement, je pense que...
C'est presque un peu égoïste, ce qu'on fait, vous savez. C'est parce qu'on reçoit beaucoup. Vraiment? Ouais. Je sais que le vendredi, c'est sacré. Je refuse toutes les invitations et j'aime venir là.
Et si je viens pas, je me sens un petit peu culpabilisée.
Oui, si vous, ça
bonjour,
va?
Bien, ça.
Allons, soyez pas sottes, ce n'est tout de même pas de notre faute. Si le malheur des autres fait le bonheur, ce auquel il rapporte. Et puis ma chère, vivre riche et bien heureux, c'est peut-être déjà bien, c'est certain. Mais sans un parterre de bougres et de malheureux, oh, ça n'aurait goût à rien. Oh, sans vous les tristes bougres, sans vous les humbles gens, sans vous les malheureux, les malchanceux, les mal lotis, vraiment que serions-nous, nous les bien portants, les gagnants du loto, nous les élus, nous les vernis. Sans vous, on ne pourrait pas faire preuve de pitié, pas faire œuvre de charité, et pas faire passer nos repas. Quand on vous donne un sou, vous ne savez pas comme c'est doux, tout chaud à l'intérieur, tout sucre, on sent tout de suite meilleur. Regardez-moi bien filer une pièce, ça se vaut rien. Oui, messieurs, moi j'ai les moyens.
Faut que je m'informe, vu tout ce que je donne au clodo. C'est peut-être déductible des impôts.
Vous voyez pas qu'on peut donner quelque chose à ce monsieur? Non? Mais il est dans la rue.
Vous voulez quelque chose?
Vous
voulez quoi, un gâteau ou du pain?
Merci, c'est cool. Je suis un orphelin et j'ai le cœur.
On va porter hein, les affaires. Hein.
D'accord, je vous laisse porter. Alexandre, à côté, il y a la soupe.
Mais
pourquoi vous y allez pas?
J'étais violé quand j'étais gosse. Et l'homme me fait peur. Rien que le contact de l'homme, ça me fait peur.
La rue Montorgueil, je vois pas beaucoup de personnes qui sont dans la rue, qui
c'est à cause de la police. Il y a les commerçants, pas tous, heureusement, mais il y a des commerçants qui appellent la police et qui nous virent.
Vous êtes fait virer de la rue Montorgueil?
Oui. Déjà, à l'hôtel du Louvre où je dormais, ils m'ont fait virer parce que c'est un hôtel de riches. Parce que ça leur fait une sale image. Mais on est tous virés par la police, nous les gens de la rue. Ils ne regardent pas les nationalités, ils ne regardent rien. Si tu veux, pour la société humaine qui travaille, quand tu es dehors, tu n'es plus rien, tu es différent. Ils te trouvent différent. Pour eux, tu n'es plus rien. Tu n'es qu'une merde, tu n'es plus un humain. Ils te regardent avec curiosité, ils sortent leur côté raciste sur nous. Ils nous insultent de fainéant d'aller bosser, mais ils ne savent même pas pourquoi on est dehors. Le premier pas que l'être humain dans ce monde a à faire vers la paix dans ce monde pour les gosses et les jeunes, justement, c'est le tutoiement. L'État a mis le vouvoiement parce que ça, ils savent que ça divise les gens du peuple. Eh oui.
Toi, pourquoi t'es dehors, Alexandre?
Parce que j'ai perdu ma femme de 25 ans il y a 12 ans en arrière au début de ma galère, le jour de la lune de miel. Après la Légion étrangère et l'assistance publique. Bah, si tu veux, après la Légion, j'ai épousé une femme et j'ai pris sa fille en mon nom. On a été à Las Vegas parce que moi je voulais y aller, parce que je voulais lui offrir le casino de Las Vegas, parce que pour elle, pour moi c'était important qu'elle aille là-bas. Et pour ma fille, parce que c'était plus près pour aller à Disneyland, tu vois. On est arrivé, ma femme est sortie de l'aéroport en courant, elle a arrêté un taxi, et puis il y a un camion de routier qui lui a passé dessus, quoi. J'ai surmonté tout ça. Il n'y a qu'une chose que j'arrive pas, que j'essaie là, parce que je sais que j'ai une volonté d'en faire. Il n'y a qu'une chose que je suis en train d'essayer, c'est la dernière petite chose qui me reste pour pouvoir surmonter encore. Pour oublier tout, je vais prouver qu'on peut oublier. Vivre avec, mais on peut aussi oublier. Ça, je sais qu'on peut le faire. Tout ce qui est négatif, on peut l'oublier. Et ben là, je suis en train d'essayer de me rapprocher de l'homme, malgré qu'il me fait peur, tu vois, de prendre contact. Petit à petit.
Gérer les pauvres, c'est la question qui se pose aujourd'hui. Et on s'organise de mieux en mieux pour tenir les pauvres, les miséreux, les misérables à distance. Mais certains ne sont peut-être pas aussi abrutis que ça.
Dans tous les journaux, ils parlent la raison d'être des gens qui sont carrément bas de l'échelle, dans la rue. Ils font des campagnes comme ce qu'ils ont fait sur le canal Saint-Martin, là, de 100 tentes, avec des gens qui ont un logement, qui vont essayer de dormir une nuit pour savoir comment les gens dans la rue peuvent supporter ça, alors que bon, c'est même les artistes qui vont les dormir, c'est complètement nul, quoi. C'est tout le monde s'en sert, hein. Tout parti politique confondu, hein. Pour les élections, hein. Et s'il faut en arriver à ça pour s'en servir que pas un joker mais comme un pion sur un échiquier pour avoir des points aux élections, c'est dégueulasse, quoi. Emmanueli, que je peux pas encadrer.
Samu social.
Et ben je peux vous dire que 80% des gens, quand ils voient le Samu social, ils se planquent derrière un mur pour pas aller à Montrouge ou à... Parce que c'est complètement lamentable, c'est à tout niveau, c'est-à-dire au niveau psychologie, encadrement, hygiène.
Les autres associations qui servent à manger, etc.
Là, vous basez sur l'alimentaire. Hein, parce que pour les gens de la précarité, c'est le logement. sinon à Paris, on peut manger, on peut se dans les vestiaires pour avoir des vêtements, des chaussures, les douches sont gratuites, ce qui n'est pas donné dans beaucoup de pays. La base, le basique, c'est le logement. Hein, c'est, la priorité, c'est le logement. Hein. À la rue, quand vous dormez dans un sac de couchage, sur un carton ou dans une tente, vous pouvez pas aller au boulot le lendemain matin. Hein. Ça, un jour, deux jours, trois jours, et après vous cassez les reins.
Vous voulez qu'on aille où? Vous voulez pas qu'on rentre à l'intérieur? Ou pas? Non, ça, non.
Vous voulez boire un café?
Merci. Bah, il fait meilleur quand même, non?
Ouais. J'ai une famille où il y avait une bonne, une fille au père et un chauffeur. Vous voyez un peu le niveau avec le social, quoi, non? Depuis mon adolescence, je ne conçois pas de vivre célibataire, je ne conçois pas. Peut-être que j'ai trop souffert d'avoir fait des années de jésuite en pension. C'est même pas le problème, je ne conçois pas être vivre seul, quoi.
C'était quoi cette éducation?
Jésuite.
Jésuite?
Jésuite, oui. Dans plusieurs pays. Après, par obligation familiale, j'ai fait 2 ans de médecine. Ben, je fais baxer. J'ai fait 2 ans de médecine à Rennes. Mais j'étais plus avec les filles dans mon lit ou dans les bars qu'à la fac. Ben ouais. Pas évident, hein? Je passe un coup de fil le matin, j'ai pas besoin d'aller voir ma psy, je recherche ma psy le matin, j'ai pas besoin d'aller la voir.
Vous avez fait une belle économie, j'espère qu'elle est gratuite, ma psy.
Ah mais quand même, c'est une psy sociale, elle est aveugle. Pendant 2 heures, quand je lui parle, je regarde son chien, Arthur. C'est un labrador, il me regarde, il me connaît. Je regarde le chien quand je lui parle. Elle me tient la main de temps en temps parce que bon, il faut la toucher quand même. Hein. Mais c'est une très bonne psy. Merci, il fait rire.
Merci à tous, c'était un reportage de Pascal Pascarghello. Merci à Jérôme, Thierry, Sam, Emilio, Jean-Jacques Gouret, Max et aux commerçants de la rue Montorgueil, aux bénévoles de la soupe Saint-Eustache. À lire Le sang nouveau est arrivé, l'horreur SDF de Patrick Declercq aux éditions Gallimard. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission et faire des commentaires, ainsi que sur là-bas.org. À la technique aujourd'hui, Olivier Rieutor et Eric Morin, Koye Nguyen et Raphaël Moutard ont réalisé cette émission assistée de Charlotte Perry. Agnès Lebot, quant à elle, attend vos messages au répondeur de là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. Et puis ce soir, entre autres projections, il y en aura une à Massy, au Cinémassy, à 20h30, projection de Chomsky et compagnie, suivi d'un débat avec votre serviteur, soi-même, en chair et en os. Réclame.